médias et numériques libres.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numériques libres.
Sur Ondulation, je suis avec Mona, tu es coordinatrice de l'association Transmission, qui est un collectif qui est dédié à la création radiophonique. Bonjour Mona.
Bonjour, merci.
Alors peut-être parlons un petit peu de ce collectif Transmission qui a débuté en 2018, ça prend place dans le nord de Paris, pour être un peu plus exact, vers Aubervilliers, puisque à Aubervilliers, vous avez ouvert en 2021 et jusqu'à 2023, donc pendant 2 ans, un projet qui s'appelait La Cassette, qui est un lieu de production associatif, collectif de production sonore, radiophonique, et également il y a eu un café et on pouvait donc prendre du café en même temps qu'on pouvait faire de la radio.
Oui, c'est ça, c'était un peu le projet, c'était un espace un peu multidimensionnel, et donc c'est un espace comme aujourd'hui on en appellerait un tiers-lieu. Nous, on l'appelait espace de création, espace de production. Il y avait à la fois donc ce café associatif qui était ouvert à toute personne du quartier, toute personne venant aussi enregistrer dans nos studios ou participer à nos formations. On avait donc aussi 2 petites cabines et un grand studio d'enregistrement dans lequel les personnes qui le souhaitaient pouvaient venir enregistrer des voix off ou faire des interviews. Et l'espace café se transformait aussi en journée de temps en temps en espace de formation. Et le soir, à peu près une fois par semaine, c'était aussi un lieu dédié pour des événements autour du son, que ça soit des écoutes de documentaires, mais parfois aussi des choses plus festives comme des concerts, des DJ sets, des karaokés. Et en termes de formation, on proposait, et d'ailleurs on propose toujours, des stages de création sonore où l'idée c'est d'apprendre les bases de la prise de son, du montage, du mixage pour en fait être autonome dans la création de son podcast, que ça soit un documentaire ou une fiction. Et on propose aussi parfois des journées thématiques où là on va se concentrer sur un savoir-faire, que ça soit donc justement la prise de son, le mixage, et parfois des choses un peu plus différentes comme par exemple des ateliers d'initiation de montage sur bande. Voilà, donc c'est un projet un peu multiforme, multidimensionnel, qui se poursuit encore aujourd'hui mais sous une autre forme. Puisque bon voilà, on y reviendra peut-être, mais c'est assez lourd pour une association de porter un lieu, et qui plus est un lieu qui avait un loyer commercial. Donc on continue notre activité de formation et d'événementiel, un petit peu aussi de location de studio, mais dans un autre lieu aujourd'hui.
Alors c'est ça, parce que Transmission c'est également une école libre, une école de la radio libre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors initialement, école libre, ça voulait dire, parce que donc avant que la cassette existe, l'association existait déjà, et ce format d'école libre, c'est de dire qu'en fait c'est une école qui est accessible sans prérequis, peu importe en fait son âge ou son expérience professionnelle, ses études, etc. Puisqu'en fait le constat de départ qui a été fait par les cofondateurs et les cofondatrices de Transmission, qui sont des personnes qui viennent plutôt du milieu journalistique, de RFI notamment, c'est des personnes qui ont constaté qu'en fait seules les personnes qui sont passées par un cursus de journaliste avaient en fait les billes pour pouvoir faire de la radio, et que globalement de toute façon les formations radio manquaient dans le paysage. Alors aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même assez, enfin il y en a assez peu quoi, à part peut-être voilà le Cradoc et la première année du Cradoc et l'INA, en fait il y a dans le supérieur peu de formations accessibles, et encore moins pour des personnes qui sortent des études, hein, donc voilà, en fait à 40 ans si on a envie de raconter une histoire par le son, bah en fait c'est beaucoup plus difficile de trouver des formations aujourd'hui pour se former sur ces outils-là. Et donc en fait c'était de dire toutes les personnes peuvent se saisir de cet outil, puisque c'est un outil qui aujourd'hui grâce aux avancées technologiques est beaucoup plus accessible. Un H1 au final, bon c'est un matériel qui a un petit prix, mais en vrai c'est un prix accessible.
Oui, un H1 qui est un micro numérique de la marque Zoom, qui est pas la même marque qui fait l'outil de visioconférence, mais c'est un enregistreur numérique sonore.
Ouais, exactement. Et donc ça reste un prix accessible et puis aussi pouvoir bah, diffuser en fait ce qu'on vient de faire avec l'émergence du podcast, des web radios, etc. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque où c'était de la FM. Et donc en fait ça laisse aussi un champ des possibles aux personnes qui ont des histoires à raconter, qui ont des témoignages à faire voilà, avancer, à mettre sur le devant de la scène, etc. Que c'était de dire que voilà, une école libre, c'est une école accessible à tous et à toutes, quel que soit leur profil et aussi quels que soient leurs moyens. Donc au tout départ, cette école, c'était une école à prix libre, complètement prix libre, et c'était aussi une école sous format de cours du soir qui durait 6 mois à 1 an. Le problème du prix libre, c'est qu'à un moment donné, ça touche ses limites quand les personnes qui animent en fait l'école ne peuvent pas être correctement rémunérées pour un travail qui devient assez dur. Et je pense qu'à Radio Campus, vous savez aussi ces problèmes aussi de bénévolat et de salariat qui s'entremêlent. Et donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'on est passé sur une formule avec des prix fixe, mais des paliers de tarifs. Et alors même si évidemment on aimerait que ça soit encore moins cher, mais on essaye de faire en sorte que ça soit justement par les subventions qu'on touche, etc., des tarifs poussés un maximum vers le bas pour que un maximum de gens puissent y avoir accès.
Alors tu parlais tout à l'heure, à l'instant, du podcast, de ces nouvelles formes radiophoniques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce changement de paysage, ce changement de paradigme, ce changement de manière de faire, comment ça a évolué par exemple sur les 5, 10, 15 dernières années?
Alors, moi, j'aurais pas la prétention d'être une spécialiste du podcast. Je peux juste parler peut-être
De ton point de vue,
sur
ouais.
l'expérience au niveau de transmission. C'est vrai qu'au départ, donc quand Transmission a été créée en 2018, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de formation au podcast. Aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé. J'ai l'impression que même des personnes qui sont des podcasteurs, podcasteuses indépendants vont proposer leur coaching ou leur suivi, etc. Phonurgia, faudrait voir, je ne sais plus de quand ça date à peu près qu'ils ont lancé leur formation. Pareil pour Longueur d'onde. La Longueur d'onde, ça fait très longtemps que ça existe, mais peut-être les formations, c'est un peu récent. Enfin, en tout cas, voilà, je me rends compte que depuis, en tout cas, que Transmission a commencé à faire des formations, d'autres formations aussi se sont développées. Le podcast lui-même est devenu en fait aussi un outil de communication beaucoup plus mainstream et accepté, ne serait-ce que parce que aujourd'hui même, je vois qu'il y a des youtubeurs hyper connus qui commencent à faire leur podcast et qui sont connus aussi grâce par ce biais-là. Voilà, c'est devenu un contenu digital comme peut l'être un Reels, comme peut l'être une vidéo YouTube, etc. Et à la fois, il y a quand même un constat qui est qu'il n'y a toujours pas de modèle économique. Donc on est toujours dans ce problème-là. Enfin, il n'y a pas un modèle économique pérenne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de pouvoir financer par la publicité. Mais en fait, après, sinon, je veux dire, il n'y a pas un modèle comme le CNC qui pourrait financer véritablement du podcast indépendant. Il y a les aides du ministère une fois par an, 1 000 euros qu'on donne bien gentiment à quelqu'un qui aura écrit un dossier qui lui aura pris un mois à écrire. Et à part ça, bon, bah, globalement, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Tu disais coaching. Est-ce que quelque part le podcast n'est pas devenu en fait un produit de consommation même individualiste?
Bah, ça, c'est une vraie question. Je pense que de toute façon, de base, le podcast a été, enfin, beaucoup de personnes se sont qui étaient un petit peu, comment dire, beaucoup de personnes dont on n'entendait pas souvent en fait la parole sur les médias dits mainstream, les médias de masse, eh bien, ont pu se saisir de cet outil-là pour faire entendre leur voix. Et c'est des personnes, on va dire, avec des identités marquées, que ce soit par exemple, mais même par exemple des femmes sur les questions féministes, des personnes racisées sur les questions de racisme, des personnes handicapées, etc. Et donc, forcément, il y a une revendication un peu identitaire qui se crée. Revendication identitaire, ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui devient individualisme, mais c'est comme deux facettes d'une même pièce. Je pense qu'à la fois, le podcast permet d'affirmer son identité, identité en tant que personne, parce que, encore une fois, c'est un moyen de communication accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, etc., et qui n'ont pas accès aux médias mainstream. Mais de l'autre côté, ça fait aussi que on a peut-être un petit peu plus tendance à parler de soi, vu qu'on est aussi son propre capitaine. Et donc, ça se voit même dans les écritures pour des contenus d'Arte Radio, etc. Arte Radio, la recette, c'est souvent la même, c'est-à-dire on va parler de son expérience personnelle pour parler du collectif. Et en soi, moi, c'est pas vraiment quelque chose que je critique, parce que je suis une consommatrice d'Arte Radio, je trouve ça très chouette ce qui est fait là-bas. Donc, c'est pas à prendre du tout comme une critique, plus un constat. Et après, dans sa forme un peu plus mercantile, capitaliste, en effet, on va trouver quelque chose qui poussait, voilà, jusqu'au bout, devient un truc un peu autour du développement personnel, du bien-être, etc. Et ça, il y en a à foison des podcasts là-dessus. Moi, c'est pas ce que je préfère et j'ai des critiques peut-être là-dessus un peu plus importantes à formuler, mais voilà, c'est quelque chose qui existe, quoi.
Alors sur le site internet de transmission trsm.io, il y a un petit paragraphe qui dit justement « Dans ce contexte, je cite, hein, « dans ce contexte pourtant favorable à l'innovation, la production manque d'originalité, de forme comme de fond. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils sont pas assez bien travaillés, certains podcasts ?
Alors non, enfin c'est un peu pour revenir sur cette question-là, c'est de dire que en gros nous on milite pour des écritures singulières, c'est-à-dire que on est là aussi pour faire en sorte que les personnes qui viennent à nos stages, qu'on va former, etc., elles ressortent pas juste avec des outils pour prendre correctement le son. Et ensuite, faire une émission de talk. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer le talk, pour dire il y a quelque chose de mieux ou de moins bien. Parce que bon, encore une fois, à titre personnel, moi je consomme des émissions de talk et ça me va très bien. Mais c'est de dire qu'en fait, on est là, nous en tout cas, dans le camp plutôt de la création sonore, donc de quelque chose où on va essayer d'amener les personnes en dehors de ces sentiers un peu battus. Et de les amener plutôt à de la fiction, du documentaire, qui intègre différents outils, qui laisse place aussi à leur créativité, que ces personnes-là aussi puissent se sentir libres, de mélanger les genres, de mélanger les styles, de mélanger les sonorités, les textures, etc. Et en fait, oui, c'est plutôt vers ça que nous on essaye de former les gens et de les alerter, quoi, pour dire l'audio, c'est aussi un terrain de jeu et un terrain de création, et ne nous contentons pas peut-être juste de parler dans un micro et créons, quoi, faisons des choses originales.
Oui, c'est pas uniquement l'aspect technique, c'est aussi de chercher justement la plus-value artistique, le parti pris artistique, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est de dire, nous, on essaie de faire reconnaître la création sonore comme un art, ce qui est assez compliqué parce qu'on est souvent catégorisé plus éducation aux médias, par exemple. Ce qui nous convient aussi, mais en fait, on se rend compte que, par exemple, quand on demande des subventions à la DRAC ne reconnaît pas la radio comme un art. On est plutôt du côté de l'éducation média.
Ouais, le mouton noir, le pauvre petit canard, le vilain petit canard est laissé au bord de la route. Le podcast, du coup, c'est avec cette arrivée, c'est un peu, tu le disais, quelque part l'histoire de soi. Est-ce que finalement, on n'est pas sur une nouvelle forme en fait du blogging comme on a pu le connaître dans les années 2000 avec l'explosion d'Internet, des sites Internet personnels? Est-ce qu'on est dans une version en fait du blog, sachant qu'on a eu le vlog il y a quelques années aussi avec le développement de YouTube? Est-ce que le podcast, en fait, c'est pas de l'audio blog?
Eh ben carrément, je l'avais pas forcément aussi bien formalisé, mais carrément, je suis assez d'accord avec.
En plus, j'ai rentré. Tu parlais d'Arte Radio, mais la plateforme que Arte Radio met à disposition aux créateuristes pour valoriser leur travail gratuitement, ça s'appelle d'ailleurs Audioblog. Donc j'ai même pas inventé le truc, j'ai vraiment piqué là sans aucune vergogne.
Ouais, non, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que je pense que chaque génération Internet a un petit peu son outil, son canal, et que sûrement que dans les années 2000, c'était plus simple d'écrire. Mais en fait, d'ailleurs, pour connaître quelques personnes qui leur petite heure de gloire dans les blogs des débuts des années 2000, certaines sont aujourd'hui à la tête de podcasts indés. Donc oui, ça, c'est sûr.
Et aujourd'hui, quelle place pour le collectif, puisqu'on a cette facilité aujourd'hui, tu le disais, avec un micro de la marque Zoom, le H1, qui a moins d'une centaine d'euros, on peut facilement s'enregistrer avec une qualité sonore tout à fait convenable. On peut brancher une carte son, acheter quelques dizaines d'euros sur Internet avec un micro qu'on branche en XLR. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets donc personnels, de projets individuels qui naissent. Est-ce que tu ressens une volonté? Peut-être, est-ce que déjà tu es en contact avec ce genre de personnes? Est-ce qu'ils ont une volonté de fédérer, de faire ensemble? Et quel serait l'intérêt et l'enjeu de faire ensemble pour ces personnes? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est intéressant de le faire?
La volonté, elle est là, je pense, parce que honnêtement, nous, on a déjà plusieurs personnes qui nous contactent au sein du collectif pour le rejoindre. Quand le collectif était sous le format d'une école, donc c'était aussi une école qui était par contre accessible sur dossier. Et donc, il y a eu trois promotions et enfin, à la dernière promotion, il y avait à peu près 450 personnes qui ont candidaté. Donc,
Ah
en fait,
ouais.
ça fait du monde, je pense, qu'il y a. Alors, peut-être que dans ces 450 personnes, il n'y avait pas que des personnes qui avaient envie d'un collectif, et il y avait peut-être une centaine ou 150 personnes qui étaient plus dans une dynamique individuelle de se former pour ensuite faire leur propre podcast. Mais je pense quand même que ça montre une volonté de faire collectif. Je pense que il y a aussi de plus en plus de collectifs. Moi, je me rends compte qui intègrent la radio, qui sont pas forcément comme nous 100% radio, mais pour laquelle la radio est une composante importante. Et notamment parce qu'en fait, c'est une pratique qui peut être très solitaire et que je ne crois pas qu'un être humain, même la personne la plus introvertie, puisse supporter très longtemps d'être complètement seul. Et donc on a besoin de se retrouver, de créer ensemble. Et même nous, on se rend compte que voilà, quand on fait des événements, etc., les gens sont heureux de se croiser, de pouvoir bosser à deux, trois parfois. Les stages, c'est toujours des super moments où les gens ressortent remplis en fait de la semaine et sont comme après une colo, quoi, donc heureux et d'avoir rencontré des personnes avec qui ils ont pu s'amuser pendant la semaine, faire créer ensemble, expérimenter ensemble, etc. Donc non, moi je crois à la force du collectif et je pense que l'appétence est là.
L'appétence pour faire collectif est là. Et quid du linéaire, parce que transmission, donc sur votre site internet, il est écrit que vous êtes hérité quelque part des radios libres. Il y a vraiment cet héritage radiophonique de création sonore. Est-ce que vous avez un flux linéaire qu'on peut écouter? Ou est-ce que c'est que du à la demande?
Non, c'est que dû à la demande, que du podcast, parce que nous, on est vraiment beaucoup plus orienté documentaire et fiction. Et donc, en fait, c'est pas, on fait pas d'émission plateau. Donc, on n'a pas de quoi nourrir un flux.
Il n'y a pas de quoi nourrir un flux. Est-ce qu'il y aurait la volonté potentiellement de faire un flux ou est-ce que c'est un choix en fait de ne pas avoir de flux?
Ça, c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre parce que je peux pas répondre au nom du collectif sur quelque chose dont on a peu discuté. Je
Oui.
pense que s'il y avait une vraie volonté, elle aurait émergé. Aujourd'hui, comme en fait on a quand même une grosse partie de nos activités qui sont déjà de la formation, si on devait en plus se lancer dans du flux, je pense que ça serait compliqué. Et en plus, la plupart des gens ont quand même plutôt des projets docu-fiction. Après, ça nous est arrivé plusieurs fois de se dire ah ben c'est un peu dommage de pas essayer de faire un peu plus de plateaux, c'est sympa aussi. Enfin, on en a fait tous et toutes à des moments, à des endroits différents. Et en fait, oui, parfois on se dit bah, ça pourrait être cool de le faire, mais je pense que s'il y a une volonté, en tout cas, elle n'est pas assez forte pour que quelque chose émerge, quoi.
Est-ce que, au contraire, vous travaillez avec des radios associatives locales pour diffuser les contenus, des créateuristes qui passent par transmission?
Oui, alors en fait, on travaille pas directement, c'est plutôt les radios qui viennent nous voir et qui nous proposent bah, de diffuser une des offres de transmission. On a eu plusieurs, voilà, Radio Vassivière, il y a eu Radio Campus Paris, notamment parce qu'on a deux personnes du collectif qui travaillent aussi à Radio
C'est
Campus Paris.
pratique.
sont bénévoles à Radio Campus Paris, donc c'est pratique pour créer du lien. Mais voilà, plein d'autres radios associatives, oui, qui diffusent nos œuvres, et on est toujours hyper contents et contentes quand c'est le cas.
Parlons un petit peu du futur de transmission. Donc de 2021 à 2023, il y avait la cassette à Aubervilliers. Maintenant, vous déménagez du côté de Pantin dans un ancien collège. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans comme projet, Mona ?
Et ben, alors en fait, on n'est pas très loin en fait de la cassette. Hein. On est à moins de 5 minutes à pied, puisqu'on reste dans le quartier des Quatre Chemins pour les personnes qui sont franciliennes. Mais on est côté Pantin. Et on est dans un ancien collège de la ville qui a été donné en gestion à une association qui s'appelle Artagon. Et Artagon, c'est une association qui accompagne des artistes émergents en résidence à travers la mise à disposition d'espaces de résidence et aussi un suivi personnalisé et collectif avec des formations, etc. Et nous, on s'insère dans ce lieu comme association permanente, au même titre que d'autres associations qui sont là aussi. C'est un lieu qui est très vivant parce qu'en fait, il y a énormément d'associations de résidents, résidentes qui s'y croisent sur des thématiques hyper différentes. Hein, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des gens qui font de la photo que du verger urbain, voilà, c'est des choses, des activités en tout cas très 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 larges. Et nous, en fait, on continue là-bas à y faire nos ateliers. On a aussi notre studio qui a été remonté, qui est disponible à la location et qui est aussi disponible à toutes les personnes sur place qui le souhaiteraient. Et puis, on va bientôt organiser un événement, notre premier événement dans notre nouveau lieu, qui est un peu notre crémaillère quelque part.
Oh.
ça sera le samedi 15 juin. Donc voilà, ça sera un événement sur les radios libres, et il y aura à la fois des ateliers, des conférences et des DJ sets pour clôturer la journée. Donc voilà, toutes les personnes franciliennes, n'hésitez pas à venir. Artagon, 15 juin, 14h, 23h, on est là.
Avant de se quitter, Mona, de transmission, donc ce projet de radio, de formation de radio-école en région parisienne, une question que je pose à tous les invités qu'on reçoit en plateau sur Ondulation. Ondulation, cette année, ça se fait dans un cadre un peu spécial, c'est les 30 ans de Radio Campus Orléans. Et la question que je pose à nos invités, c'est: comment imaginez-vous à quoi ressemblera finalement le paysage médiatique et le paysage radiophonique dans 30 ans, sachant qu'on parlait aussi un petit peu du linéaire, et je voulais également un peu plus orienter la question. Est-ce que tu penses que le linéaire a de l'avenir ?
Alors, quand tu dis linéaire, c'est un flux continu.
Ouais, le flux continu, que ce soit de la web radio, de la FM, de la radio numérique terrestre.
Alors, c'est une super question, et en même temps, je pense que je suis super nulle à toutes ces questions de projection. Là, j'ai envie de dire que compte tenu de l'actualité de fusion de Radio France, etc., je me dis qu'on va quand même de plus en plus vers des coupes budgétaires qui vont forcément un peu endommager la capacité du service public à fournir un flux. En parallèle, il y a cette montée du podcast, mais est-ce que c'est un peu une bulle sur 10 ans et après, un peu comme les blogs, on n'en entendra plus trop parler. C'est vrai que moi, j'ai du mal à me projeter. J'aurais quand même tendance à dire que globalement, la marche du culturel numérique va de plus en plus vers du à la demande. Parce qu'on le voit en fait pour les vidéos, il y a les services de streaming, même la télé maintenant fait beaucoup de replays, et en fait les pratiques des générations millennials et toutes celles qui suivent en fait, c'est plus ce truc là de ouvrir sa télé, ouvrir sa radio, enfin de moins en moins en tout cas de personnes vont ouvrir leur radio ou la télé au moment où ils veulent écouter quelque chose, ils vont plutôt le réécouter après. Donc je ne sais pas, mais qui sait, peut-être la radio c'est comme la mode, c'est des cycles et ça va revenir, donc voilà, on verra bien.
Et les médias et lieux associatifs justement autour de la création sonore, quel avenir dans 30 ans ? Vraiment la dimension associative, la dimension collective.
J'espère un avenir florissant,
mais
peut-être que c'est des... Je sais pas, c'est vraiment une hypothèse, mais peut-être que justement les grosses structures vont disparaître au profit de multiples petites structures qui proposeront chacune des programmations variées. Je sais pas, j'ai du mal à. En tout cas, je pense que dans le contexte où enfin, si de plus en plus de personnes continuent à faire de la radio et du podcast, il y a forcément de plus en plus de collectifs qui vont finir par exister. Parce que comme je le disais, je ne crois pas au loup solitaire et je crois qu'on finit quand même toujours un moment par se réunir en collectif.
Merci beaucoup Mona, je le rappelle, tu es coordinatrice du collectif Transmission, donc en région parisienne à Pantin. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve toute l'actualité de Transmission?
Eh ben, vous pouvez retrouver notre actualité sur nos réseaux sociaux, @ la cassette radio et @ collectif transmission sur Instagram, Facebook. On a aussi notre site lacassette.fr avec donc lacassette.fr, c'est notre site plutôt orienté pour nos formations, et trsm.io qui est plutôt notre site internet général. Et puis après, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour avoir voilà les dernières dates de stage ou d'événements qu'on crée. Voilà.
Merci beaucoup, Mona.
Merci beaucoup.
We'll be right back. prends bien garde au loup. Le gazon glisse et l'air est doux. Brebis, prends bien garde au loup. Le gazon glisse et l'air est doux. Brebis, prends bien garde au loup.
Thank you. dalle.
Action.